Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui « Des saisons, des travaux et des jours, jadis en Basse Marche ». Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Albert Gourceau, La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse Marche. Charles Sylvestre, Au soleil des saisons. Pierre Delage, Au fil des mois, jadis à la campagne. Louis Peignot, Bergère, éternelle bergère.
Petite et grande histoire de la Basse Marche.
Au cours de nos petites et grandes histoires de la Basse Marche, nous avons bien sûr traité des activités agricoles qui marquent l'année. La récolte et l'utilisation des châtaignes, la fauchaison, la fenaison, la moisson, la batteuse, la culture, l'exploitation du seigle, du mil, du chanvre, les labours, la tonte des moutons, les travaux d'hiver, clôture, rigole, fabrication de la vannerie, des paniers, etc., etc. Aujourd'hui, dans cette émission, nous voudrions traiter du rapport entre le calendrier traditionnel et le calendrier des fêtes et cérémonies agraires. Pour cette partie, nous nous inspirerons largement des études d'Albert Gourceau. Puis, dans une deuxième partie, nous essaierons de dresser une espèce de calendrier agricole de notre région. Depuis que l'homme s'est fait agriculteur, son attention s'est portée entièrement sur le règne végétal, c'est-à-dire le cours des saisons. La vie de l'homme de la campagne est ainsi réglée par deux cycles annuels indépendants. L'année civile de calendrier ou l'année solaire et l'année agricole. Alors que l'année solaire comprend les quatre saisons bien connues d'une durée de 3 mois chacune avec un commencement et une fin nettement fixée par les passages du soleil au solstice et aux équinoxes, le cycle agricole, lui, ne comprend que 2 saisons principales et 2 périodes intermédiaires. Une saison chaude, que l'on appelle l'été, comme en français, et une saison froide, l'hiver. Pendant la saison chaude, le soleil monte très haut au-dessus de l'horizon, les jours sont longs, et grâce à cet ensoleillement intense, la végétation subit une poussée de vie telle que cela lui permet de parcourir tout son cycle de développement en quelques mois. Pour le paysan, c'est le moment des gros travaux. Il doit être partout à la fois. Aussi, sa journée de labeur peut-elle atteindre 14 et 15 heures vers la Saint-Jean. Cette saison chaude dure approximativement 6 mois, du deuxième tiers d'avril au deuxième tiers d'octobre.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Quant à la saison froide, elle débute vers la fin de novembre, après ces derniers beaux jours que l'on appelle l'été de la Saint-Martin. Voici comment Charles Sylvestre interprète cette fin de saison dans son recueil Interlude. Un doigt brûlant fait tourner la saison, le pivert jette une clameur d'augure, la feuille morte à l'améthyste obscure vient illustrer les mains du bûcheron. Abandonné par les folles mésanges, un arbre seul au sommet des coteaux élève enfin ses tremblants rameaux, le chant qui saisit l'homme en proie aux anges. La fin de l'été de la Saint-Martin marque donc le début de la saison froide. Pour la végétation, c'est une période de sommeil, et pour le paysan qui a terminé ses emblavures aux environs de Toussaint, quelques mois de demi-repos consacré à l'entretien de ses bâtiments et de son matériel. La journée est courte et c'est pourquoi on la prolongeait jadis par la veillée qui d'ailleurs était autant une réunion de détente qu'une séance de travail.
Le berger souffle dans ses doigts, les glaçons pendent, le lait gèle, la neige est comme une dentelle, près du feu s'amasse le bois. Partout l'eau se fige captive, restez chez vous, l'hiver arrive. Alors la chouette là-haut chante tôt, chante tôt, et c'est bon de l'entendre au chaud. Le vent dessus les prés gémit, et dans le ciel la lune est nue, partout l'enrhumée éternue, croquez les marrons mes amis. La nature paraît pensive, restez chez vous, l'hiver arrive.
Entre la saison froide et la saison chaude se place une première période intermédiaire où le temps incertain fait croire parfois à la fin de l'hiver, alors que deux retours du froid peuvent encore se produire. Un en février, un autre aux alentours de Pâques. En Limousin, pour désigner cette période, il existe le mot « l'oprimo », qui a peut-être la même origine que le français « printemps ». L'oprimo ne marque pas le départ timide de la végétation. Elle, puisque l'oprimo est féminin, ne caractérise nullement cette période de la fin février où l'on commence à faire les premiers semis dans les endroits abrités comme les jardins. Pour les vieilles gens de la campagne, ce mot s'applique essentiellement à ce brusque réveil de la nature qui, dans un débordement de vie exubérant et un désir furieux de renouveau, fait littéralement jaillir de terre plantes et fleurs. Par contre, en Limousin comme en Basse-Marche, il n'y a pas de mot correspondant à « automne ». Cependant, comme il est plus commode de trouver un nom pour cette période préhivernale qui va de la fin octobre à la fin novembre, on a inventé une expression qui est aussi jolie que poétique. On dit que c'est le « temps des châtaignes » pour désigner la saison où ces fruits, qui furent le pain de nos pères, commencent à tomber.
Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Châtaigne dans les bois, se fendent, châtaigne dans les bois, se fendent sous les pas. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Nuages dans le ciel, s'étirent, s'étirent, nuages dans le ciel.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
À ces calendriers solaires et agricoles s'ajoute un calendrier religieux légèrement décalé, qui lui aussi va marquer la vie des paysans bas-marchois. L'année se trouve alors divisée en deux parties sensiblement égales par les deux fêtes de la Nativité et de la Saint-Jean. Pendant les six premiers mois, de la Noël au 24 juin, se déroule un cycle liturgique dont Pâques est le sommet et l'Ascension, suivie de la Pentecôte, l'épilogue. Quant à l'autre période, elle est essentiellement consacrée à la préparation des événements qui vont conduire à la Noël. Chacune de ces deux périodes est à son tour subdivisée en deux parties sensiblement égales par les fêtes de l'Annonciation le 25 mars et de la Saint-Michel le 29 septembre. Ces vieux usages furent longtemps en vigueur dans nos campagnes. C'était à la Saint-Jean que se réglaient les fermages, à la Saint-Jean et à la Noël quand le loyer est stipulé payable en deux termes. Et c'est presque toujours aux foires qui se tiennent aux environs de la Saint-Jean que se faisait la louée des domestiques. Dotons enfin l'importance de la date du 25 mars qui annonce la fin des veillées d'hiver. En effet, c'est vers la fin de mars que commencent les premiers travaux importants, et comme le paysan n'est pas encore bien adapté à ce nouveau rythme de travail, il n'a aucune envie de s'attarder le soir à la veillée, d'où le déclin de celle-ci. L'année agricole se terminait donc jadis aux environs de la Toussaint avec la fin des emblavures d'hiver. C'est sans doute pourquoi cette date de la Toussaint avait été retenue pour l'entrée en jouissance ou le départ d'un métayer ou d'un fermier. Comme Albert Gourceau, nous allons débuter nous aussi le calendrier agricole en novembre. Au début du mois de novembre, terminé les emblavures qui n'auraient pu être faites. Rentrer les raves qui doivent être en cave à la Sainte-Catherine, c'est-à-dire le 25 novembre. Récolter les châtaignes. Ceci, c'est le travail des femmes et des enfants. En décembre, si le temps le permet, commencer à nettoyer les prés et à refaire les rigoles d'irrigation. On peut aussi profiter d'un beau temps sans gelée pour retourner les étheules qui auraient été laissées en jachère afin de détruire les mauvaises herbes. Élaguer les chênes têtards dont les branches seront mises en fagots. Élaguer et reboucher les haies.
Réveillez-vous, cœurs endormis, cette nuit. Réveillez-vous, cœurs endormis, cette nuit. La bonne année va donner-nous la guilane. La guilane, il est là-haut sur la fenêtre. C'est un tout petit cheval blanc sans queue ni tête. Nous vous souhaitons la bonne année, va donner-nous la guilane. Si vous ne voulez rien nous donner, vous ferons dommage. Nous en irons dans vos jardins, dans vos potages.
Voici comment Charles Sylvestre, dans Au soleil des saisons, présente les travaux de la campagne en décembre. En ce mois, les hommes de campagne ont une nouvelle vaillance. Au taille près, on trace les tranchées dans l'herbage et l'eau bien conduite s'ouvre en branches bleuissantes. Il y avait du travail sur la planche. Charger les terreaux et les déverser dans les champs. Labourer les terres pour les semences de printemps. Tailler les buissons aux ombres mangeuses. Rafistoler les barrières. Nettoyer les écorces dans les vergers. Passer au lait de chaux le tronc des arbres. Et maintes besognes comme cela. Aux étables, il importe de forcer en viande et de surveiller le bétail que guette le coup de sang. On réforme les vieux animaux. Conclusion, pas de chômage. Voici janvier. Il faut continuer les travaux de décembre en se guidant sur la température extérieure. Soins aux prés, ébranchage des chênes, curage des haies. Si l'on a besoin de bois d'œuvre ou de chauffage, abattre les arbres nécessaires. Les jours de mauvais temps, faire des barrières pour remplacer celles devenues hors d'usage. Faire aussi des échelles, des manches d'outils, des râteaux, des fourches, des joues, etc. Battre le blé noir au fléau. Égrener le maïs à la veillée sur une queue de poêle. Pour compléter ces informations, nous faisons appel à nouveau à Charles Sylvestre. C'est un extrait du Voyage rustique. Le paysan ébranche sans merci les vieux arbres de clôture. Au fort de l'hiver, on le voit par un temps sec, agrippé au tronc, armé d'un couperet long, emmanché. Il frappe à petits coups précis. Les ramilles tombent en amas. Il en fait des fagots et les enserre de liens comme des gerbes. Il les entasse sur une charrette et les porte au bûcher où ils sécheront. Le travail fini, les arbres apparaissent atrocement nus. Ils sont dépouillés jusqu'aux fêtes, tondus comme avec des ciseaux. Ce ne sont plus que d'énormes câbles, roidis par le gel, jetés vers le ciel brumeux. Ça et là, des nœuds marquent la coupure des branches. À la nuit tombante, ils prennent des formes d'animaux fabuleux à l'inquiétante immobilité. Ils favorisent les tristes rêves. Et ils n'auront plus la figure des arbres qui n'ont pas été mutilés. Quand la saison des feuilles est revenue, ils revivent au milieu des haies verdoyantes. Ils y sont mêlés si étroitement qu'ils ressemblent à des buissons verticaux foisonnant dans l'air. Au soleil, ils montent en feu vert tout brûlant de ciel. En février, il faut terminer les soins au pré, détruire les taupes et niveler les taupinières. Si le temps le permet, semer les premières carottes fourragères. Et voici mars, où l'on va transporter le fumier pour les premiers labours de printemps. Vers le 15-20 mars, commencer à planter pommes de terre et topinambours et ensemencer les prés. Également répandre dans les blés d'hiver l'engrais en poudrette, c'est du superphosphate, ou l'azote ammoniacal, puis les hercer et les rouler.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous sommes en avril, voici ce qu'écrit Charles Sylvestre, toujours lui, dans Pleine Terre. Tout va mieux, tout recommence. On laboure à pleine charrue, plus de veillée. Couchons-nous de bonne heure et levons-nous avant le jour. Les heures prennent tout leur prix. Hâtons-nous d'achever les semailles d'avoine. Ils sont fainéants ceux qui n'ont pas fini de planter les topinambours. On a visité les ruches et donné aux abeilles la nourriture voulue. Il s'agit de les aider jusqu'à la grande miellée. Toutes les haies sont taillées, tous les arbres de clôture ébranchés. Les prés balayés, leurs rigoles bien tracées et creusées où l'eau va couler, hâter la pousse de l'herbe. On dresse des épouvantails dans les champs ensemencés. Quelques oiseaux sont de retour et, faute d'insectes, ils mangeraient les graines germées. Albert Gourceau lui écrit en avril « Commencez à biner et à sarcler les pommes de terre, semer pois, betteraves, blé noir, préparer le terrain pour les haricots. Dans les moments disponibles, rentrez le bois de bûche et les fagots faits pendant l'hiver. Avril est aussi le mois de naissance des chevreaux. »
C'est dans le mois de mai en montant la rivière, c'est dans le mois de mai que les filles sont belles, que les filles sont belles au gué, que les filles sont belles, et que tous les amants en montant la rivière, et que tous les amants y changent leur maîtresse.
Nous voici maintenant dans les mois chauds. Nous allons suivre les recommandations d'Albert Gourceau. En mai, buter les pommes de terre et les topinambours, semer les haricots, repiquer les betteraves, semer le maïs et autrefois le chanvre. Quand le temps est favorable, couper trèfle et luzerne. Et bien sûr, tondre les brebis. Avec le mois de juin, commence la période des gros travaux. Le cultivateur doit être partout à la fois. Parmi les travaux particuliers à juin, on peut citer semer le blé noir, traiter les pommes de terre contre les doryphores, et à la Saint-Jean commencent les fenaisons. En juillet, terminer les fauches et commencer les moissons, semer le maïs fourrage, commencer l'arrachage des pommes de terre hâtives et faire une deuxième coupe dans les prairies artificielles. En août, terminer la moisson et commencer les battages, effectuer les premières coupes de roguin, semer le colza et selon les années, commencer à arracher les pommes de terre. Avant un orage, retourner une ou deux étheules, y semer des raves ou y planter des choux fourragés.
Mon père tenait dans sa main toutes les forêts familières. Mon père tenait dans sa main toutes les boucles des chemins et les cheveux de la rivière. Pour faire un cheval à crinière, un cheval à d'écume et de blé aux jeunes filles de l'été, loin derrière et plus loin devant.
Septembre est un mois charnière. À cheval sur la saison chaude et la saison froide qui arrive, mais c'est un mois de grande activité. Il faut continuer à faucher le roguin et arracher les pommes de terre, ramasser les haricots dont les tiges seront rassemblées en botillons et mises à sécher sous un hangar. À la fin du mois, lorsque leurs grains seront bien secs, ces botillons seront battus au fléau. Il faut aussi semer les prairies artificielles, et c'est aussi vers la mi-septembre que commençaient jadis les emblavures de seigle. Nous allons terminer avec octobre. D'abord avec Charles Sylvestre, trois textes. Les deux premiers sont extraits de Pleine Terre et le troisième de Au soleil des saisons. Dans les métairies, les battages sont terminés. On a pris les sacs de blé par l'oreille, on les a soulevés, portés au grenier. Le grain a ruisselé sous la charpente. Un travail est accompli, il en faut un autre. Ce qui est fait ne compte plus. Le paysan ne peut s'abandonner aux songes. Il sait que les saisons tournent comme des meules silencieuses. Une semaine, l'air s'est embrasé. Les feuillages se grillaient au feu du ciel. Les hommes aussi. La terre devenait dure. Arrêtait la charrue qui menait les labours de déchômage. On a profité de ces gros coups de chaleur pour engranger les roguins abondants. Et les prairies ont donné une nouvelle toison. On a coupé des fougères dans les landes afin de remplacer la paille. Il y a peu de froment, mais les betteraves et les topinambours sont beaux. Les pluies feront pousser des cèpes dont les châtaigneraies qui sont pleines de fruits cette année. Au verger, on ramasse les premières pommes qui tombent et que l'on va conduire au pressoir. Au rucher, les vieilles gens vont s'assurer de la présence des reines, suprêmes forces tranquilles et vigilantes. On récoltera le miel et la cire en réservant la provision d'hivernage. Des mains prudentes placeront un grillage au seuil des ruches afin de les défendre contre leurs ennemis qui veillent toujours. Au jardin, les pensées fleurissent encore et les pavots dressent leurs urnes qui prennent des apparences d'objets funèbres dont le couvercle est scellé par 9 baguettes rayonnantes. S'il fait brumeux, on s'éclaire aux fleurs jaunes du tournesol où bouillonnent encore quelques abeilles. Pas de trêve aux hommes. On commence à brûler les herbes dans les jardins en casier. On gaule les noix, on dresse des échelles pour dénicher les derniers fruits. Les raisins se pressent en foule le long des treilles. Les châtaignes pointent dans la bogue piquante qui les défend. On arrache les pommes de terre. Des femmes courbées, attentives, font jaillir dans une parcelle voisine les pesantes grappes souterraines. On voit luire de temps à autre le fer des pioches. Un cri d'homme qui laboure vient jusqu'ici comme un appel d'air lumineux. La rumeur des gens de travail n'altère pas le silence des champs. On se hâte lentement, selon le très vieux conseil. Je m'en vais sur la route de Belfond. Des charrettes roulent vers le pressoir, chargées de sacs à plein bord. D'autres sont remplies de fougères sèches dont on fait litière. Des garçons de métairie, la casquette rabattue sur les yeux, vont tranquillement, à leur besogne, pressent de l'aiguillon un attelage qui ne marche pas plus vite. La rivière brille entre les aulnes. Une senteur de pommes broyées passe dans l'air. J'entends craquer dans le moulin la vis du pressoir sous la pesée d'une épaule d'homme. Près du seuil s'amassent des monceaux de pelures rougeâtres. Combien de temps encore le cidre nouveau coulera-t-il dans une odeur de farine ?
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Quelquefois, le ciel est d'une limpidité indicible. On ne sait quelle immense pâleur d'eau calme et bleue, sans une ride, sans un nuage, où l'on voit de temps à autre le ricochet d'un oiseau, rayonne un moment sur la campagne. Au loin, des arbres se mirent dans l'air. C'est la saison des reflets et des pièges. L'ombre du soir descend vite. On allume plutôt le feu de branche qui réjouit la maison, avant d'allumer la lampe. Il y a dans le vent des pointes de froid. Métayers et journaliers se hâtent, mènent la vieille besogne en silence. Le seul travail parle dans la solitude des champs. Il faut ramasser les pommes de terre, les mettre en sac, les charger sur les charrettes et les trier dans la grange. Les topinambours ont leurs fleurs d'or qui brûlent dans les journées grises avec l'ardeur d'une flamme d'huile. Les pommiers donnent tous leurs fruits. Après-midi, quand il fait bien sec, on cueille les plus beaux, les plus parfaits, ceux qui chanteront sous le couteau. On appuie au tronc une échelle. On va les prendre à la main, sans les froisser, avec soin, comme des choses précieuses, pour les porter doucement dans les paniers. Leur chair, pleine de soleil, embaumera l'obscur fruitier pendant l'hiver jusqu'aux approches du printemps. Que les autres, les retardataires, les rabougrissent, que le ver a troué, tombe des branches secouées, ils iront rouler au pressoir et donneront un excellent cidre. De toutes parts, on reprend les labourages. La bonne semence est choisie, l'attelage des bœufs grince, traîne la herse, enfonce les crocs dans le sol. Tout est déchiré, lavé, mis à nu. Tout recommence. Rien n'est rompu, tout meurt pour revivre. Et comme aux âges passés, après des siècles et des siècles, chaque sillon formant un rayon de l'humaine roue qui tourne, voilà que des hommes tranquilles, portant une charge de grains à la mesure de leur domaine, sortent de leur maison pour semer. Voici comment Albert Gourceau termine son calendrier agricole. En octobre, rentrer les légumes, raves, rutabaga ainsi que les betteraves, récolter les noix et les premières châtaignes. Tous ces travaux sont confiés aux femmes et aux enfants, tandis que pendant tout le mois, les hommes sont occupés à transporter le fumier, à labourer et à semer leurs céréales d'hiver. Enfin, c'est en octobre que jadis débutaient réellement les grandes veillées de la saison froide. Thank you. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée « Des saisons, des travaux et des jours, jadis, en Basse Marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Albert Gourceau, de Charles Sylvestre, de Pierre Delage et de Louis Peignot. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Ce sera la rediffusion d'une émission consacrée aux exclus jadis en Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.